On recommence. Quelqu'un ferme la porte. Si... Merci. Je commence par récapituler. Hein, comme ça, on remet tout en place et on repart. Donc, dans le sermon universitaire, qui nous a servi de point de départ, Newman distingue deux strates, raison implicite, raison explicite. Dans la grammaire de l'assentiment, il distingue deux modes de juger ou de penser, notionnel ou réel. Si nous rapprochons l'enseignement du sermon universitaire et de la grammaire de l'assentiment, on peut donc établir une corrélation entre raison implicite et assentiment réel et raison explicite et assentiment notionnel. Donc deux formes de pensée, deux formes de procédures de pensée qui ne sont pas opposées, qui ne sont pas dialectiques, mais qui sont néanmoins à distinguer et qui requièrent chacune, ou qui postulent chacune et produisent chacune, tantôt des idées, tantôt des images. Bien. La métamorphose du pensée notionnelle en réel est opérée par l'image, par l'imagination. L'imagination réceptacle des idées ou des images qui provoque une impression, et ces impressions vont alors produire des images ou des idées qui sont censées les démultiplier, les modaliser, et quand elles sont formalisées sous forme d'énoncés, de pouvoir les communiquer. On a vu que puisque l'imagination est un milieu, elle est constituée aussi de deux strates, comme la raison, une strate passive, une strate active, passive imagination, et l'imagination productrice ou inventive, créatrice, qui est celle qui est mise en œuvre pour élaborer des récits d'imagination, des œuvres d'imagination. Quand l'esprit pense, pour Newman, donc, il pense ensemble, de manière symphonique, organique, avec l'imagination et avec l'intellect. Je vous rappelle que l'absence de notion ou d'énoncé ou de pensée claire ne veut pas dire qu'on ne pense pas. En revanche, l'esprit ne peut pas raisonner sans recours à l'imagination. Oui.
Je sais pas si c'est pas bien, mais en fait, la raison explicite, l'imagination,
c'est pas dans
les deux sens. L'imagination permet d'aller de l'un à l'autre.
Non, l'imagination fonctionne dans un seul sens, c'est-à-dire qu'elle fait passer du notionnel au réel ou de l'implicite ou de l'explicite à l'implicite. Dans le cas de l'explicite et de l'implicite, non, vous avez raison, il y a un phénomène de reconduction, c'est-à-dire que la raison explicite, elle a tendance, justement, comme son nom l'indique, à analyser et ensuite à formuler des théories, des énoncés de ce que vit, en fait, la raison implicite. Hein. L'imagination va alors reconduire la raison explicite à la raison implicite, dont elle ne se distingue pas véritablement, vous comprenez. Le problème, c'est qu'on a distingué des facultés, imagination, volonté, etc. Bon, et parmi celles-ci, il y a également, je viens de vous dire, l'imagination. Donc, on a tendance à penser sous le mode de la raison et d'imaginer sous le mode de l'imagination. Newman nous dit non, ce n'est pas des facultés distinctes, c'est des modalités. Tantôt on produit des images, tantôt on produit des concepts, mais simplement dès qu'une image est constituée ou dès qu'un concept est constitué, on a tendance à se focaliser sur le concept ou sur l'image et de perdre de vue, si vous voulez, ce qui permet l'image, ce qui permet le concept, c'est-à-dire l'esprit vivant qui pense et qui pense sans avoir besoin de la logique constituée. Vous avez compris ? C'est ça le point décisif pour Newman. Il y a un pensée naturel, et ce pensée naturel, ce pensée spontané, il n'est pas soumis au protocole de la logique. La logique en sourd. Ça ne veut pas dire qu'il est irrationnel, ça ne veut pas dire qu'il est illogique. Mais ça veut dire que les protocoles de la logique ne sont pas les seuls et ne doivent pas être considérés comme le cadre limitatif de la pensée. Penser, ce n'est pas seulement penser d'une manière logique. Penser, c'est penser par image, c'est penser par imagination, etc. Donc, encore une fois, pensez bien imagination, volonté, mémoire, imagination, non pas comme des facultés ou des choses distinctes, mais comme une espèce d'organicité en nous, sur laquelle on met des noms, imagination, volonté, etc., par rapport aux actes que l'on pose. La volonté produit certains actes, la mémoire d'autres, la raison d'autres, l'imagination aussi. Et c'est ces actes qui reconduisent à une spécificité de l'esprit. Mais l'esprit pense, quand vous imaginez, vous êtes aussi en train de vouloir et aussi en train d'avoir des souvenirs, vous comprenez ? Mais simplement, il y a une espèce de dosage qui fait qu'il y a un élément qui prédomine à un moment donné plutôt qu'un autre, c'est tout. C'est ça que Newman nous dit. Donc ce qu'il veut nous montrer, ça va être l'argument final du cours, c'est que on a subordonné non seulement l'accès aux vérités religieuses, mais surtout l'accès à ce qui constitue l'homme dans sa nature la plus élémentaire, on l'a subordonné à des théories. Alors l'homme doit entrer dans ces théories plutôt que l'inverse, vous comprenez ? C'est ça qui s'est passé. Et Newman dit non, ben, on va faire l'inverse maintenant. On va reconduire les théories à l'homme. Et il se pourrait que l'homme pense davantage que toutes les théories qu'il peut produire. Voilà. D'accord ? Et ce qui raison pourquoi Newman attache une telle importance aux humanités, parce que les humanités vont alors nous éclairer davantage que les théories philosophiques ou les théories philosophiques ou les sciences sur ce qu'est l'homme, sur ce qu'est de vivre comme un homme. Voilà. Bien. Alors, donc, quand l'esprit pense, il pense avec imagination et avec l'intellect. L'esprit pense par idée, l'esprit pense par image. Et sans reconduction du concept à l'image, dont il dérive, la notion reste sans vie, sans réalité. C'est ce qui constitue la marque de la conceptualité pour Newman. La conceptualité est sans vie, elle est sans histoire, elle est sans temps. Ça va être important, on va y venir, l'importance de l'histoire et le lien avec l'imagination. Et en ce sens, elle diffère complètement, par exemple, des idéalités mathématiques ou des formules scientifiques. Tous les concepts ne peuvent pas être reconduits au même degré au réel. Via l'imagination. Les idéalités mathématiques, par exemple, ne possèdent pas d'autre réalité qu'une réalité notionnelle, abstraite. Il en va de même pour la géométrie. Vous ne voyez, par exemple, Newman dit, dans la nature, vous ne rencontrez pas de ligne droite. Ça n'existe pas. Une ligne droite, c'est une conception géométrique. Un angle droit, c'est une conception géométrique. Dans la nature, vous avez toujours des choses un petit peu biscornues. Hein. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bon. Mais ces idéalités, ces théorèmes, ces théories, ces calculus, elles peuvent devenir réelles. Je vous explique, elles ne sont pas reconduites au réel. Elles peuvent devenir réelles. Comment ? C'est une petite digression que je vous fais, mais elle est, à mon avis, instructive. C'est ce qu'on voit dans la technique et son application, dans la technologie et les produits de la technologie. Les objets technologiques ne sont pas des choses. Thing. Ce ne sont pas des choses. Ce sont des objets. Des objets dont l'essence est une théorie. Ce sont des formules objectivées. Ce sont des théorèmes objectivés. Qui deviennent des objets. Hein ? Ce n'est plus la nature mathématisée, au sens de Galilée, au sens de la science moderne, au sens de Descartes et des autres. C'est la mathématique qui s'objectifie. C'est la mathématique qui s'objectifie, qui devient un objet. Au-dessus de la nature. Comme deux strates maintenant. Il y a une couche, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, alors maintenant il y en a une troisième avec le virtuel. Il y a une première couche, la couche naturelle, qui est autour de nous. Et depuis le XVIe siècle, l'émergence des sciences, depuis la dichotomie cartésienne entre le monde des corps et le monde de l'esprit, puis ensuite la mathématisation et la mécanisation du monde des corps, nous avons aujourd'hui, par-dessus le monde de la nature, un monde d'objets, et un monde d'abord d'objets qui était mécanique, industriel, ensuite technique, technologique aujourd'hui, et puis par-dessus, ensuite, cette couche qui a encore un élément d'objectivité, puisque les objets, on les utilise, commencer par ce micro, par exemple, dire le virtuel. Alors maintenant, définir le virtuel philosophiquement, ce n'est pas l'objet. Ce serait plutôt Oui, c'est... Non. C'est l'image qui devient pour elle-même un objet, on pourrait dire ça. C'est l'image qui s'objectifie. Bien, donc nous sommes dans une grande machination, et le propre de cette grande machination, de ces théorèmes et théories devenus objets, c'est de nous déshumaniser. Autrement dit, les objets de la technique nous conforment à eux. Ils ont pas de... Leur utilisation n'est pas neutre. N'est pas neutre. Bien. Voilà pourquoi Newman insiste sur le caractère irremplaçable des humanités. Hein? Les sciences touchent l'intellect, exclusivement l'intellect, oui, de manière privilégiée, l'intellect, pas exclusivement, de manière privilégiée. Elles ne touchent pas le cœur. Elles ne touchent pas le cœur. Elles n'émeuvent pas, elles ne produisent pas d'impression. Encore que, peut-être que, il me semble qu'Einstein s'émouvait devant des formules mathématiques. Il y a une forme d'émotion. Hein?
Tout simplement, excusez-moi, je me permets, mais quand on a une intuition.
Oui. On ressent oui. Eureka. Eureka.
On ressent
Eureka. Eureka. C'est-à-dire que Eureka, ça veut dire c'est heureuse trouvaille. Eureka. Bon. C'est ça. Bon. Mais ça veut dire, en soi, vous devez être mathématicien pour apprécier, vous devez être dans le truc, vous devez être dedans pour voir, pour que ça. Si vous ne savez pas, ça ne va pas tellement vous émouvoir, me semble-t-il. Peu importe. Quoi qu'il en soit, elles informent, elles sont utiles. Mais pour que la littérature, le théâtre, la poésie puissent nous toucher, pour que ce qui est dit et écrit, on l'a vu ce matin, acquiert la densité de la vie et du réel et nous touche comme le monde nous touche par la beauté, comme une personnalité nous touche, il faut que les notions, y compris celles véhiculées par les humanités, descendent en nous, traversent la raison explicite, donc la strate logicienne, spontanée, la strate rationnelle de notre être, et atteignent la raison implicite, cette couche impressionnelle qui est en nous, l'imagination, et enfin qu'elle touche le cœur. Bien. Ça, on l'a vu ce matin, et pour ça, il faut le facteur temps, le facteur de la temporalité. Bien. Je n'y reviens pas. Alors le cœur aura des mots pour dire ce qu'il ne savait pas vivre ou avoir vécu. Alors les notions deviendront réelles, comme dans l'exemple de la lecture de Virgile ce matin. La réalité qui s'ouvrira deviendra alors ouverture devant des possibilités de vie nouvelle ou de transformation en un mot de conversion. Alors pourquoi ? Vous aviez la réponse déjà, parce que l'imagination, encore une fois, aura rendu réel ce qui était, aura rendu ces notions aussi réelles que la réalité, si je puis dire. Si vous prenez les citations, la citation 21, pour voir l'effet que produit deux types de propositions, Newman écrit, j'ai dit que notre appréhension d'une proposition varie en intensité et qu'elle est plus forte dans le cas d'une proposition exprimant des choses que dans le cas d'une proposition exprimant des notions. Et j'ai donné l'explication de cela, à savoir que ce qui est concret, il y a une horrible faute, à savoir que ce qui est concret exerce une force et produit une impression sur l'esprit que rien d'abstrait ne peut rivaliser. Autrement dit, et c'est l'argument que j'ai invoqué, parce qu'un objet est plus puissant, son appréhension l'est aussi. Bien. C'est précisément ce dont Newman va faire l'expérience en 1816. Il a alors 15 ans, on l'a lu ce matin, je vais y revenir, lors de sa conversion. Dieu, dit-il, vous vous souvenez, lui est devenu aussi concret que lui-même. Ce qui nous reste à voir maintenant, dans cette deuxième partie, c'est comment l'imagination peut rendre tangible réel, l'objet de la connaissance religieuse, puisque cet objet est invisible et intangible, invisible et non perceptible. Alors on va commencer par un paragraphe de la grammaire de l'assentiment qui pose bien le problème spécifique que Newman rencontrait et auquel il a voulu essayer de répondre. Je lis avec vous, c'est le 22. Puis-je parvenir avec davantage de force à assentir à l'être de Dieu ? Que lorsque je consens simplement aux notions de l'intellect. Puis-je entrer, par ma connaissance personnelle, dans le cercle de vérité qui compose cette pensée supérieure ? Puis-je me hausser vers ce que j'ai appelé une appréhension imaginative de cette pensée? Puis-je croire comme si je voyais? Puis-je croire comme si je voyais? Dans la mesure où un assentiment aussi élevé requiert qu'on ait soit l'expérience, soit la mémoire du fait, à première vue, il semblerait que la réponse dût être négative. Car comment puis-je assentir comme si je voyais, à moins d'avoir vu? Or, personne en cette vie ne peut voir Dieu. Cependant, ajoute Newman, je conçois qu'un assentiment réel est possible et je m'apprête à vous montrer comment. À savoir, je conçois que croire comme si je voyais est possible et je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer comment on peut voir Dieu. C'est tout simplement ça que nous dit Newman. Et rien de moins et rien de plus. Sur quelle base et à partir de quoi posons-nous un acte de foi? Saint Paul nous répond, la foi vient de l'audition de la parole de Dieu. D'accord? Cette parole, c'est celle de l'Évangile. Transmise par l'Église, c'est la parole, c'est le credo qui condense la foi apostolique et la fait résonner à travers le temps. C'est donc, encore une fois, la voix de l'Église. Bien. Nous croyons donc sur la base d'énoncés. D'abord, si Dieu a parlé, c'est que nous avions fait l'effort nécessaire pour passer de borborygme à un langage structuré. Le Christ n'a pas crié, le Christ n'a pas fait de gestes, le Christ n'a pas fait de mime, il a parlé, et le langage qu'il a parlé, c'est un langage humain, c'était le fruit d'une culture. Le Seigneur a emprunté le chemin de la culture des hommes pour pouvoir s'exprimer à travers lui. Donc nous croyons sur la base d'énoncés qui sont constitués par grâce, plus exactement, à la culture humaine, c'est-à-dire la parole, la réflexion, le raisonnement, etc. Les apôtres et les disciples se trouvaient dans une situation inverse, eux. Nous croyons sur la base d'énoncés qui nous ont été transmis. Eux, ils disposaient, j'ai déjà évoqué la chose ce matin, ils disposaient d'expérience, ils disposaient d'intuition, hein, au sens où je vous l'ai dit. Ils disposaient d'images, le Christ devant eux, ils disposaient d'impressions, l'impression faite par le Christ et sa parole sur eux, mais pas de concept, ou moins de concept, ou de notion pour appréhender ce qu'ils voyaient, en dépit de la parole de l'Ancien Testament et de la parole des prophètes qu'aurait dû éclairer. Ça n'a pas toujours été le cas, et même pas souvent. Bien. Regardez l'exemple de la transfiguration. Le Christ s'est transfiguré devant eux et Saint Pierre, la seule chose qu'il trouve, la chose, eh bien, Seigneur, qu'est-ce qu'on est bien ici? On va faire trois temples, on va rester. Bon. Voilà. Et c'est le Père qui la nuée les prend sous son ombre et dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc la parole qui va éclairer ce qui s'est passé est donnée par le Père. Elle vient de l'extérieur. Bien. Dans un sermon universitaire, Newman développe l'idée que la révélation du Christ, parce qu'elle sollicite la vision. La révélation du Christ, parce qu'elle sollicite la vision, le toucher, l'ouïe, fait contrepoids à la visibilité du monde. L'incarnation, Dieu qui se rend présent dans la chair, tangible dans un corps, visible à travers un visage, audible à travers une parole, fait contrepoids à la visibilité du monde autour de nous. Depuis la chute, le monde, qui était censé, comme nous le dit saint Paul, rendre visibles les invisibles en Dieu, à partir de la création, je vous renvoie à Épître aux Romains 1:20, le monde, le cosmos, fait écran. Il s'interpose entre le regard, notre regard, et Dieu qui nous regarde. Il devient un écran. Ou plutôt, plus exactement, parce que la création ne change pas de nature, c'est notre regard qui a changé de nature. c'est notre regard qui ne le perçoit plus comme révélation, qui ne perçoit plus le cosmos comme image, à travers lequel l'invisible se rend visible, à savoir Dieu. Ce qu'a perdu la création à nos yeux, c'est son caractère, et ça c'est Newman qui le dit, c'est ce que les pères de l'Église appelaient la dimension sacramentelle, symbolique, de la création, de la nature, du monde autour de nous, les créations. C'est ça qui est perdu. La création ne change pas de nature, le monde ne change pas de nature, c'est notre regard. On ne le perçoit plus comme signe, on le perçoit comme, encore une fois, collection d'éléments sensibles, d'étangs, hein, d'étangs, d'êtres divers, ou alors sous la forme d'un concept. Je vous l'ai dit, le monde est un concept, le monde n'est pas une réalité qu'on a sous les yeux, le monde c'est un concept, bien. Par l'incarnation, c'est-à-dire par l'entrée du Créateur dans sa création, Dieu occupe à nouveau notre champ de vision. Il s'impose à nouveau à notre vue. Mais cette fois d'une manière tellement tangible que la création aussi est tangible. Mais néanmoins, elle est comme à distance. C'est-à-dire que quand bien même le monde sensible est toujours présent, curieusement, il y a un effet de distanciation de nous par rapport à la création. Pourquoi ? Parce qu'elle ne nous parle pas comme... Elle ne nous impressionne pas, elle ne produit pas d'impression sur nous comme peut le faire un autre être humain. Elle a une individualité, elle a une particularité, elle a une essence, elle a une, tout ce que vous voulez. Elle a une nature, elle n'a pas de personnalité. Et donc, l'incarnation vient d'une certaine manière à la fois corriger notre regard sur le monde et combler quelque chose qui est à la fois une donnée naturelle, c'est-à-dire le bien que les hommes ressentent d'être entre eux. C'est pour ça que nous sommes d'abord une société, avant que d'être des individus. Et ensuite, combler, et pas combler au sens où il y avait un manque, mais combler au sens où c'est un accomplissement, ce contentement qui est celui de l'ami auprès de qui on peut se reposer, l'ami auquel on peut se confier, le regard qui nous regarde et qui nous console et qui peut aussi nous juger. C'est tout cela, l'incarnation. Mais c'est surtout, et avant tout, Dieu qui se donne alors comme le plus grand objet de l'imagination, parce qu'il se donne comme une, j'allais dire, comme une image indubitable. Le Christ incarné n'était pas abordé par les apôtres comme une parole désincarnée. Il n'était pas abordé par les apôtres comme un énoncé incarné. Il vient comme un homme, il vient comme un homme qui se présente avec une manière d'être, donc qui fait impression, et donc il se donne, on peut se souvenir de lui, on peut avoir l'image de lui, il se donne à nous d'abord comme une image, et il sollicite d'abord l'imagination, il sollicite d'abord l'impression produite sur nous, pour lui répondre. C'est ça, pour Newman, le grand motif de l'incarnation. Il devient donc aussi réel que le monde et peut occuper tout notre champ de vision. Et devant lui, le monde s'éclipse, s'évanouit, d'une certaine manière, comme la transfiguration. Il n'y avait plus que Jésus seul, nous dit l'Évangile. Donc l'image du Christ désormais habite l'imagination des apôtres avant d'habiter leur raison. Mais elle habite aussi leur raison. Mais c'est d'abord l'imagination qui est sollicitée. C'est cette image qui est plutôt une icône. Je vous expliquerai peut-être pourquoi il faut davantage parler d'icône, ne serait-ce que parce que le grec dit icône et il ne dit pas eidolon. C'est cette image, icône, qui a été transmise et que conserve la communauté croyante. pour Newman. On va lire deux passages, 23-24. Je les lis avec vous. Je les lis parce qu'il n'y a plus d'autres occurrences. Mais on va trouver deux fois l'idée, l'image d'une habitation de l'image, et une fois l'idée de l'image, une fois l'idée du Christ comme image, mais comme habitant davantage la raison, comme idée. 23, l'image. À examiner ce sujet, je serais tenté d'y voir la preuve, autant que je puisse en juger, de deux éléments. D'abord, que cette pensée ou image du Christ fut le fondement de la conversion et de la communion des chrétiens entre eux. Et ensuite, ajoute Newman, que c'est parmi les plus pauvres, ceux qui n'avaient ni pouvoir, ni influence, ni réputation ou éducation, que réside son principal succès. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il veut dire par là que, avant les raisonnements, avant les démonstrations, c'est la démonstration au sens imaginatif du terme du Christ qui a convaincu, qui a retourné et qui a provoqué la première évangélisation. C'est la première chose. Remarquez que vous vous trouvez ici un analogue à ce qu'on a vu ce matin. Newman nous avait dit que ce n'est pas parce que chez le simple paysan, il n'a pas conscience, comme le théologien, clair d'une image du Christ en lui, que cette image ne l'habite pas. Vous vous souvenez de ça ? Il y avait ça. Et puis il y a également l'autre idée, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas rendre raison qu'on est dénué de raison. D'accord ? Vous retrouvez la même logique ici. Seulement cette fois, c'est moins la strate. Alors cette fois, on est au plus profond. On est au plus profond. Newman nous dit, et on va y arriver, j'anticipe, non, je ne vais pas anticiper parce que ça vous brouillerait. Je vais y venir plutôt, étape par étape. D'abord, la citation 24. Il convenait que ces multitudes, composées de masses hétérogènes illettrées, qui depuis trois siècles avaient souffert et triomphé grâce à l'idée qui les habitait, de leur Seigneur Dieu, soient choisies, comme nous savons qu'elles le furent au IVe siècle, pour être les champions personnels de sa divinité. Alors, ça c'est un passage, c'est assez important. Newman nous dit que, vous savez peut-être qu'au IVe siècle, apparaît une hérésie qui est l'hérésie arienne, du nom d'un prêtre de l'église d'Alexandrie, qui dit, grosso modo, je vous passe les détails, le Christ n'était pas Dieu, le Christ était la plus haute créature créée directement des mains de Dieu, qui puisse être conçue, mais ce n'était pas Dieu et homme sans confusion et sans division. À quoi correspond la position de Arius ? Arius fait du Christ l'équivalent de Marie pour nous, c'est-à-dire la plus pure, la plus belle des créatures. C'est Marie, Marie Immaculée. Arius, au IVe siècle, fait du Christ, d'une certaine manière, confère au Christ les propriétés qui sont celles de Marie, les caractéristiques qui sont celles de Marie. Mais une chose, pour Arius, une chose est incontestable, le Christ n'est pas Dieu. Alors, il est un peu plus qu'un homme, mais il est un peu moins qu'un Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Bon. C'est une hérésie qui va faire tache d'huile très, très, très rapidement, qui va se diffuser d'une manière extraordinaire dans l'Église, à tel point que Saint Jérôme va pouvoir dire « Un matin, l'Église s'est réveillée et tout le monde était à rien. Il y a eu des persécutions à n'en plus finir, etc. » Bien. Alors, ce qui est intéressant chez Arius, c'est que la démonstration de sa théorie repose principalement sur des démonstrations rationnelles, des démonstrations logiques. Il s'en tient vraiment à la raison logicienne pour démontrer que le Christ, non, ce n'est pas possible, il n'est pas Dieu, c'est la plus pure des créatures, etc. Donc, ceux qui vont se lever pour répondre à Arius, nous dit Newman, ce sont ceux qui, entre le 3e et le 4e siècle, au 3e siècle, il n'y a pas encore de concile. Il y a pourtant une règle de foi qui norme la croyance dans l'Église. Cette règle de foi, elle n'est pas née d'un raisonnement rationnel sur la révélation. Elle sourd, elle émane, elle naît, elle jaillit, Newman nous dit, de cette image du Christ conservée au plus profond de la conscience des apôtres depuis la venue du Christ, et qui est bien sûr véhiculée par l'Esprit Saint, avivée par l'Esprit Saint, conférée par le baptême, mais la conscience en est déjà une amorce, on va le voir. Ce sont ceux qui conservaient cette image en eux, qui pouvaient y réfléchir, qui pouvaient défendre devant les Romains, devant les païens, qui était le Christ, mais qui néanmoins ne recouraient pas à la même forme de rationalité que les philosophes pour défendre la divinité du Christ. Ce que va faire Arius, c'est-à-dire que Arius va emprunter le chemin de la philosophie, des protocoles de la philosophie, et quand il le fait, il aboutit à quoi ? Un concept parfait de ce que peut être le Christ, parfaitement conçu, parfaitement construit, parfaitement logique, obéissant en tout au principe de raison suffisante, de causalité, enfin de tout ce que vous voulez, alors que ceux qui vont défendre la divinité du Christ, et qui sont de très grands théologiens, et qui sont ceux qui vont d'abord devenir les acteurs du premier concile œcuménique de Nicée, le premier d'entre eux étant saint Athanase, et les autres étant les moines d'Égypte, saint Antoine, qui défendaient pendant la crise arienne la divinité du Christ, ce sont ceux, nous dit Newman, qui gardaient en eux cette image, dans le silence de la contemplation, dans les monastères, dans l'intégrité d'une pensée qui ne cherchait pas à violer le mystère du Christ, mais qui le contemplait, donc une forme de rationalité adorante plutôt que maîtrisante. Et c'est cette forme de rationalité-là qui fait droit au Christ comme image, qui va remporter dans le temps la victoire sur l'arianisme. Donc c'est important de voir que ce qui est en jeu, c'est bien une forme de rationalité qui d'un côté ne fait pas droit à l'imagination et à l'image, et de l'autre côté, y fait droit. C'est ça la ligne de partage. Image du Christ, oui.
L'assentiment à l'être de Dieu avant l'incarnation
existait. Oui, bien entendu, on va y venir. Donc, image qui nous regarde, image qui s'est imprimée sur nous, image que nous découvrons en nous, image qui continue à nous regarder à travers le temps. Newman, dans un sermon qui s'appelle Le ministère chrétien, Christian Ministry, nous dit que les sacrements, la célébration des mystères, mais la prière, tout simplement, la prière personnelle d'abord, nous expose au regard du Christ. Nous expose au regard du Christ, attire son regard, Newman nous dit. Alors il se fait qu'il y a une espèce de rencontre entre un phénomène comme d'ouverture de tout notre être à ce regard qui se pose sur nous, que nous attirons parce que nous sommes en prière, ou parce que nous célébrons dans la liturgie, ce regard qui nous regarde et que nous découvrons être en nous. Parce que si nous pouvons le reconnaître, si nous pouvons le voir, c'est parce que nous le portons en nous, encore une fois. Vous comprenez ? Parce que son image est vivante en nous. Et nous l'entretenons, nous la préservons de toutes les défigurations par la prière. Mais aussi, encore une fois, par l'étude, etc. Mais il y en a moins, comme Newman vous l'a dit plusieurs fois, l'assentiment réel a une précédence, l'imagination a une précédence, donc c'est à partir de l'image que vous reconnaîtrez l'image du Christ, parce qu'il est en vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous souvenez, Kant, concept et intuition. Si vous n'avez pas, non pas le concept mais l'image, alors l'intuition du Christ ne vous apparaîtra pas. D'accord ? Donc c'est circulaire. Il faut être en lui pour le voir. Il faut que quelque chose de lui soit déjà en nous pour qu'on le voie. La plus haute démarche philosophique n'atteindra jamais, ne comblera jamais la distance qu'il y a entre ce que la pensée peut penser de plus haut et le Christ. Et Dieu. Alors, comment voir celui qui est désormais invisible et qui pourtant nous regarde. Dans un très beau sermon, Newman, un sermon qui s'appelle « Une providence personnelle manifestée dans l'Évangile », Newman donne un élément de réponse. Dans le livre de la Genèse, il est rapporté que Agar, la servante d'Abraham, fut chassée dans le désert par Sarah. Épuisée et désespérée, elle perçoit alors une voix en elle. Est-ce un ange et une voix en elle ? Elle a la peine à faire là. Le départ, la distinction entre les deux phénomènes. Une voix qui est caractérisée, qui résonne en elle, et qui, de laquelle se dégagent deux traits. Gravité et tendresse. Et Newman dit, dans ces deux traits, gravité et tendresse, Agar a reconnu la voix de son créateur, la personnalité propre de son créateur. Et alors elle s'écrie, elle lui donne un nom, et elle dit, « Toi, Dieu qui me voit. Toi, Dieu qui me voit. » Là, je traduis le texte anglais. « God, thou seest me. » Toi qui me vois, pas moi qui te regarde, moi plutôt qui réalise, qui prend conscience que tu me regardes. Mais tu me regardes toujours. Et les deux traits qui ouvrent le cœur à ce regard, c'est cette gravité, cette tendresse. Vous vous souvenez qu'au tout début, j'ai très rapidement énuméré les impressions produites par la conscience. Ombre, joie, lumière, bénédiction, on peut les résumer, les synthétiser dans ces deux caractéristiques, ces deux tonalités, gravité et tendresse. Que recoupe cette voix intérieure, donc, le phénomène de la conscience. Phénomène qui est inséparable de moi. Newman, dans la citation 25, dit, si vous voulez la lire avec moi, « Comme je l'ai dit, l'existence de Dieu est pour moi aussi certaine que mon existence. Même si, lorsque j'essaie de donner une forme logique aux bases de cette certitude, je n'y parviens pas de façon satisfaisante, selon les règles de l'art. N'était cette voix qui parle si clairement en ma conscience et en mon cœur, écrit Newman, je serais devenu athée, panthéiste ou polythéiste après avoir contemplé le monde. » Donc vous voyez que c'est à partir du phénomène de la conscience que Newman peut postuler, affirmer que l'existence de Dieu est pour lui aussi certaine que son existence. Est-ce qu'on peut pour autant établir une identité, formuler ou affirmer une identité entre le phénomène de la conscience, la conscience, le Christ et l'image du Christ? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Avant de répondre, reprenons juste quatre traits par lesquels on peut essayer de définir la nature de la conscience. Elle est inséparable, inséparable de moi, donc elle est une réalité immanente. Newman dit, citation 26, « Elle est un élément constitutif de l'esprit, un peu au même titre que la perception des idées ou que le pouvoir de raisonner ou que le sens de l'ordre, du beau et les autres dons intellectuels. Elle est un témoin intérieur à nous-mêmes de l'existence de Dieu et de sa loi. » Un témoin, souligné témoin. On essaiera d'y revenir. Première chose, donc immanente, inséparable de moi-même. Deuxièmement, elle est, bien qu'immanente, donc propre à notre esprit, Elle signale une ouverture en nous. Elle est une loi de notre esprit, mais qui dépasse à quelques titres notre esprit, écrit Newman, citation 27. Oui.
En fait, je n'ai pas compris le lien entre la conscience et l'image de Dieu en nous. Enfin, on est passé de il y a l'image de Dieu en moi qui me permet de voir Dieu, à il y a la conscience en moi qui est le témoin de l'existence.
Alors, ça, c'est parce que j'ai la transition était peut-être un peu rapide. Ce que je voulais dire par là, c'est que en ayant passé par l'exemple de Agar, Agar qui se trouve dans le désert et qui dans cette voix spécifique ou la tonalité de la voix spécifique qu'elle sent en elle, qu'elle entend en elle, gravité et tendresse, elle reconnaît la voix, elle reconnaît son créateur qui la regarde. Newman dit, elle reconnaît dans cette phénoménalité le visage de son créateur, et il ajoute, c'est le phénomène propre de la conscience. À partir de là, c'est moi qui établis et qui pose la question de cette image du Christ que les apôtres ont contemplée et qu'ils ont pu contempler, qu'ils ont pu reconnaître, hein, qu'ils ont pu reconnaître d'abord. Peut-on établir un lien entre cette image du Christ vue par les apôtres et un phénomène intérieur indissociable de nous-mêmes qu'on appelle la conscience? Pourquoi je pose cette corrélation? Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'à l'intérieur de cette image du Christ que le Christ est reconnaissable. Néanmoins, avant la venue du Christ, il n'y avait pas d'image du Christ dans... Alors, sur quoi l'évangélisation s'est-elle reposée, appuyée, pour que malgré tout, il y ait une ouverture au message du Christ? Puisque l'évangélisation ne s'est pas faite d'abord à coup d'arguments rationnels, mais par le témoignage des vies, par le fait que les chrétiens étaient d'autres Christ d'une certaine manière, et qu'en les voyant vivre, on reconnaissait quelque chose, une manière d'exister, qui n'était pas de ce monde. Vous voyez ? Ma question, c'est donc de celle-ci. Premièrement, il y a une corrélation ou une analogie qui est posée entre conscience dans sa phénoménalité, comme condition d'ouverture à un Dieu. Et puis deuxièmement, est-ce que cette conscience n'est que l'amorce ou l'ébauche d'une révélation plus complète, c'est-à-dire une religion naturelle en nous, qui attend à être complétée? Est-ce cela? Première question. Deuxième question, si c'est cela, est-ce qu'on peut dire alors, puisque pour nous, le Christ a accompli la révélation, il a accompli les prophéties, nous n'avons plus rien à attendre, tout nous a été donné en lui, il est la révélation complète, la parole du Père, qui nous a tout donné. Est-ce qu'on peut dire que la conscience est une espèce de a une dimension christologique, c'est-à-dire qu'elle est, elle est en attente d'un complément, en attente d'une, que son identité propre la plus essentielle, soit révélée. Parce que le Christ n'est pas seulement le sauveur, le Christ est aussi le créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une préexistence du Christ à sa mission dans le temps. Y a-t-il une marque en nous de cette préexistence? Vous avez compris? Ok. Bon. De toute façon, on peut y revenir. Alors, donc, elle est immanente. Elle est immanente. Elle signale une ouverture en nous. Elle est une loi de notre esprit, mais qui dépasse en quelque sorte notre esprit. Ensuite, 28, nous avons coutume de parler de la conscience comme d'une voix, terme que nous n'aurions jamais l'idée d'appliquer au sens du beau, et qui plus est une voix ou l'écho d'une voix, impérative et contraignante, comme ne l'est aucun autre commandement dans toute notre expérience. Ensuite, donc c'est une voix. Ensuite, Newman nous dit, donc immanence, transcendance, voix, instinct. Quatrième élément. Il nous dit, la conscience, c'est l'instinct de l'esprit, c'est la 29, reconnaissant un maître extérieur dans la voie de la conscience, et formant la pensée qu'il en a dans les impressions définies que la conscience suscite. Bon, après on passe. Donc c'est un instinct de l'esprit reconnaissant un maître extérieur dans la voie de la conscience. Bien. Alors, voix, elle a également une parole lumineuse, ou alors qui a la caractéristique d'éclairer les choses en nous. C'est la citation 31. Tout comme la lumière du soleil suppose que celui-ci se trouve au ciel, ou dans le ciel, cette parole à l'intérieur de nous ne se borne pas à nous instruire jusqu'à un certain point, mais fait inévitablement naître dans notre esprit l'idée d'un maître qui demeure invisible. Cette parole à l'intérieur de nous ne se borne pas à nous instruire jusqu'à un certain point, mais fait inévitablement naître dans notre esprit l'idée d'un maître qui demeure invisible. Donc vous voyez qu'on a un jeu, immanence, transcendance, intériorité, extériorité, parole, voix, instinct. Autour de ça, on tourne autour de la nature de la conscience. Bien. Alors, je reviens à ma question. Peut-on rapprocher l'image produite par la conscience de celle laissée par le Christ dans l'esprit des apôtres ? À condition, oui, mais à condition de ne pas concevoir ce rapport ou ce rapprochement comme une identité, à savoir, oui, la conscience, c'est l'image du Christ purement et simplement, mais de la concevoir sous la forme d'une relation de polarité, comme nous le voyons depuis le début, à savoir image, imagination, intelligence, raison implicite, raison explicite, conscience et Église, bref. Et là, ce sera en l'occurrence une relation qui serait celle de la conscience avec avec l'image du Christ. Comment faut-il penser la conscience dans cette perspective ? Quelle est-elle ? Commençons par la révélation. La révélation donne un visage à cette parole intérieure. La révélation donne un visage à cette parole intérieure qui résonne dans la conscience. Newman nous dit, citation 33, la révélation commence lorsque échoue la religion naturelle. La religion de la nature n'est qu'un balbutiement et elle a besoin d'être complétée, il y a une faute d'orthographe, vous corrigez, par un seul élément, et cet élément-là, c'est le christianisme. La religion de la nature est un balbutiement et elle a besoin d'être complétée. Newman dit complement. It can have but one complement. Complement en anglais, ça veut dire deux choses. Ça veut dire combler un manque. Combler un manque. Compléter. D'accord ? Mais ça veut dire aussi un accomplissement. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le point de contact entre la religion naturelle, cette religion naturelle étant en nous, la conscience et la révélation se trouvent non pas dans la raison, mais dans la conscience. En tant que celle-ci constitue la condition de possibilité de découvrir en nous, à l'état incoatif, d'ébauche, hein, de commencement d'ébauche, celui à l'image duquel nous sommes créés. À savoir le Christ, à savoir Jésus. N'oubliez pas, depuis le début, nous avons vu que le propre de la conscience, c'est de suggérer une image par le biais de l'imagination, du travail de l'imagination, mais que l'impression qui se dégage de la conscience est l'impression que laisse une personnalité. Vous vous souvenez de ça, on l'a déjà vu. Donc il y a une personne qui s'exprime dans cette voix. Ce n'est pas une voix anonyme. Ce n'est pas la voix de la nature, c'est une personnalité qui a un ton, gravité, tendresse. Si l'évangile a été reçu, nous dit Newman, si l'évangélisation ne viole pas, ça c'est pas lui qui le dit, mais c'est ce qu'on peut déduire, si l'évangélisation ne viole pas la liberté de l'homme, c'est parce que dans cette image du Christ, l'homme reconnaît cette image en lui dont témoigne la conscience. Je vous renvoie au livre de la Genèse. Je vous renvoie au livre de la Genèse. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et les pères nous disent que l'image, Dieu a une image, comme dit saint Paul. L'image parfaite, absolue, totale du Père, c'est le Christ. C'est à l'image du Christ que nous avons été faits. Donc cette image, notre modèle, nous le portons en nous, mais d'une manière enfouie, d'une manière... son image est floue, sa voix est audible, mais néanmoins pas entièrement reconnaissable. Mais c'est déjà, on ne peut pas dire plus que ce que Newman nous dit, la révélation, elle atteint un coatif. Donc ça veut dire que Newman, même s'il utilise le terme de religion naturelle et de religion révélée, ne distingue pas véritablement, je vais vous répondre, ne distingue pas véritablement entre la catégorie de la nature et la catégorie de la révélation. Pour Newman, tout est déjà pris, j'allais dire, en Dieu. Le monde est déjà révélation, et ça c'est saint Paul, et nous sommes, nous, en tant que créatures, marqués déjà par celui qui va venir, par le Christ. Et il y a donc, selon Newman, une détermination christologique dans l'homme. Nous ne sommes pas seulement faits à l'image de Dieu, un Dieu indistinct, nous sommes faits à l'image de l'image du Père. Nous sommes faits à l'image de celui qui, de toute éternité, a voulu s'unir à nous, se manifester à nous. Nous sommes faits à l'image du Christ, pas du Logos, des incarnés, des platoniciens, mais du Christ. Et donc, la conscience parle en nous, lointainement, mais de plus en plus fort, selon que nous nous prêtons à sa voix et que nous obéissons à ses injonctions. Progressivement, la conscience dessine de plus en plus précisément cette image, mais sans jamais réussir à en donner une image totale. Il faut la révélation. Donc la révélation, elle n'est pas exigée. Elle était, d'une certaine manière, prévue. Ça, c'est la perspective de Newman. Je ne préjuge pas du jugement de l'Église. Elle était prévue, et donc c'est bien pour ça que Newman utilise ce terme anglais « complement ». Elle complète et achève. Elle complète et accomplit. Elle complète et accomplit. Bien. Voilà pourquoi l'évangélisation n'est pas une violation. Pourquoi elle ne viole pas la liberté ? L'évangélisation, c'est bien au contraire ce qui nous ouvre à notre plus grande liberté. Parce qu'elle nous rend à celui à partir duquel nous avons été modelés, conçus, pensés, à l'image duquel nous sommes faits. D'ailleurs, Newman pousse si loin la dimension presque déjà révélée de la religion de nature, qu'il peut dire, la citation 32, si vous la lisez avec moi, « La pénétrante appréhension des objets religieux sur lesquels je me suis étendu ne dépend pas des récits écrits de la révélation. Elle ne nécessite aucune connaissance des Écritures, ni de l'histoire, ni de l'enseignement de l'Église catholique. Elle ne dépend pas des livres. Mais si on peut en découvrir autant dans l'aube naissante de la religion naturelle, il est évident que la lumière du christianisme est un élément nouveau, ô combien important pour donner à notre image mentale de la personne divine et de ses attributs, là ça vous soulignez, de l'image mentale de la personne divine et de ses attributs, la plénitude et l'exactitude qu'elle requiert. Et assurément, nous donner un objet clair et suffisamment cohérent pour notre foi, tel est l'objectif principal des dispensations surnaturelles de la religion. Ça va ? Vous comprenez ? Vous avez une question ? Non. Je vais vous dire qui l'a fait. C'est Benoît XVI. C'est le cardinal Ratzinger, avant qu'il soit pape, avait écrit. D'abord, il a lu Newman, il aimait beaucoup Newman, et surtout, il s'intéressait à deux choses chez Newman, la théorie du développement, dont on ne parlera pas, et la théorie de la conscience. Il avait reçu un enseignement d'un grand spécialiste de Newman en Allemagne quand il était à Munich. Munich. Il nous dit la conscience, les médiévaux, les théologiens médiévaux, l'appelle la synderèse, l'étincelle de l'âme, la pointe de l'âme. Bien. Et Benoît XVI, Joseph Ratzinger, qui était beaucoup plus patristicien, plus près des pères de l'Église que des médiévaux, nous dit, on pourrait aussi, dit-il, et penser la conscience comme l'anamnésis en nous, la mémoire d'éternité qui est en nous, et qui fait résonner quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est au-delà du monde. Voilà. Alors, il y a un relent un peu platonicien, mais on peut très bien reprendre l'idée d'anamnèse qui est d'origine platonicienne sans l'expliquer par la réminiscence comme Platon le fait. Mais il y a néanmoins l'idée, effectivement, d'une mémoire qui fait résonner presque l'éternité en nous. Et c'est vrai, vous avez raison. Il y a quelque chose de ça dans la conscience de Newman, c'est clair. Donc, l'originalité comme l'équilibre de la théorie de Newman, me semble-t-il, apparaîtra mieux si on le compare, une fois encore, à notre ami Kant, et à la philosophie morale de Kant, et sa relation avec l'histoire. Hein. Comme Newman, Kant recourt à l'argument éthique, la raison pratique, la raison qui nous pousse à agir ou qui sur laquelle notre agir est sous la juridiction, pour justifier l'hypothèse de l'existence de Dieu. La raison pure ne peut pas justifier l'existence de Dieu. Alors Kant, au terme de la première critique, cherche quand même, parce que c'est un luthérien piétiste, à sinon prouver, du moins justifier de manière hypothétique l'existence de Dieu, et trouve un argument dans la raison pratique, la conscience morale, la loi morale. En nous trouvons un impératif, l'impératif catégorique, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et tu dois le faire sans intérêt, purement, une pureté presque angélique. Bien, la pureté du motif est telle chez Kant qu'elle postule, qu'elle induit l'existence de Dieu. Seul un Dieu peut avoir un agir aussi pur que celui que je trouve auquel j'aspire, et que non seulement Kant aspire, mais en fait il en fait une théorie. Et donc Dieu devient, dans la perspective de Kant, une idée régulatrice, un postulat de la raison pratique. S'il y a une telle exigence de pureté dans l'impératif catégorique, tu dois faire ceci, tu dois faire cela sans intérêt pour toi, eh bien, cette pureté, je ne peux pas me l'avoir donnée, je ne la trouve pas dans le monde autour de moi, donc il doit y avoir quand même quelque chose de bien, de formidable, de gigantesque, de, voilà, et pour Kant, c'est Dieu. Alors, je caricature un peu, mais enfin, c'est ça. Donc, c'est une idée régulatrice, d'accord ? Kant, de ce point de vue-là, Newman ne serait pas entièrement, serait pas en désaccord total avec Kant, à cette différence près que Kant diffère de Newman sur deux points. D'abord, la raison pratique dérive de la raison pure. Elle ne renvoie pas à autre chose qu'à une autre instance en nous, la raison pure. Sa phénoménalité est purement formelle et purement légale. Et elle ne postule aucune altérité. La raison pratique dérive son idéal de pureté de la raison pure. Bien. Cette loi morale en nous, qui est parfaitement formelle, purement formelle, ne s'accompagne d'aucun affect, d'aucune impression, aucun ressenti. Elle est purement rationnelle. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et rien ne m'y pousse, sinon la raison pure. Donc c'est une morale rationnelle et froide. Et Newman, qui la vise dans la grammaire de l'assentiment, écrit « La conscience ne représente pas pour eux, ce genre de penseurs, comme elle le devrait la voix d'un législateur, mais seulement l'impératif de leur propre esprit, donc une loi qu'ils se donnent, et rien d'autre. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ne regardent pas au dehors d'eux-mêmes, parce qu'ils ne regardent pas au travers et au-delà de leur propre esprit vers le Créateur, mais ils se laissent absorber par l'idée de ce qu'ils se doivent à eux-mêmes et à leur propre dignité et de leur conformité avec eux-mêmes. La conscience est devenue un simple respect de soi-même. Bien. Ensuite, la raison pratique de la raison pure n'a besoin d'aucun complément, contrairement à la conscience, sinon celui de l'éclairage de la raison pure, justement, dont elle dérive. De plus, la révélation, la religion révélée, parce qu'elle se déroule dans l'histoire, aux yeux de Kant, se voit affectée d'un facteur de contingence. La raison pure, c'est une raison qui n'a pas d'histoire, dans tous les sens du terme, hein, au sens figuré ou au sens propre. Elle n'a pas d'histoire. Et par ailleurs, tout ce qui touche à l'histoire et tout ce qui touche au temps chez Kant est affecté d'un facteur de contingence, un facteur de relativité. Il n'y a pas d'absolu dans la temporalité. Il n'y a pas d'absolu dans l'histoire. Ça, vous ne trouverez pas. Il n'y a pas de philosophie de l'histoire chez Kant. Il y a une raison, et c'est tout. Bien. Il admet tout au plus, que si un homme a jamais pu incarner un tel idéal de pureté de la raison pratique, eh bien cet homme, oui, ça doit être le Christ. Mais c'est tout. Ça, vous trouvez ça déployé complètement dans son livre « La religion dans les limites de la simple raison », qui est un livre important et vous devrez lire, parce qu'on n'en est pas encore tout à fait sorti. Mais quoi qu'il en soit, la religion révélée n'a absolument rien à nous apprendre, ni à compléter quelque chose qui serait en ébauche, ni à éclairer quelque chose qui serait obscur, ni à nous conférer une certitude absolue, puisque vous voyez que la position est exactement inverse. Pour Newman, l'absolu se trouve dans l'histoire, Dieu qui se révèle dans l'histoire, et c'est en nous qu'il y a du relatif. C'est-à-dire que la conscience est bien normative, mais elle a besoin d'être complétée. Et donc c'est dans le temps qu'on trouvera le complément, dans l'histoire de la révélation, dans l'histoire sainte, dans l'histoire de Dieu qui chemine avec nous. Kant, c'est exactement l'inverse, l'histoire n'a rien à nous apprendre, l'absolu, il est en nous. C'est la raison pratique. D'accord ? Vous avez compris ? Bien. Alors, la comparaison avec Kant, ce n'est pas une digression, mais elle est instructive. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que la raison seule ne peut pas faire droit à la révélation. Alors, vous avez un exemple avec Kant de ce qu'on a vu avec Arius. Pourquoi ? Parce que, mais c'est différent, parce que ni l'imagination, n'entre dans le processus d'intellection. L'apprentissage d'une matière, je vous l'ai dit ce matin, peut prendre du temps, mais l'acte d'intellection est instantané. Tandis que Newman, parce qu'il prend davantage en considération les deux modes de raisonner, naturel de l'esprit, implicite, explicite, fait droit au contenu de la foi comme complément et accomplissement de ce que la raison attend, mais que seule l'imagination peut lui donner, ou que seul un mode de raisonner naturel vivant, que seule la vie peut lui donner. Hein ? On l'a vu dans le cas de la citation de Virgile. C'est l'expérience de la vie qui va alors nous faire comprendre ce que nous avions lu jeunes sans le comprendre. Newman décrit ainsi l'action régulatrice qu'exercent mutuellement l'une sur l'autre la raison et l'imagination. 35. Dans la religion, l'imagination et les affections devraient toujours être placées sous le contrôle de la raison. Et ensuite, 36, il ajoute « Les formules qui donnent corps à un dogme pour le théologien suggèrent ou se présentent comme impliquent spontanément un objet pour l'homme de prière. » Donc il y a un fonctionnement dans les deux sens, une autorégulation, une autocompensation, j'allais dire une autocritique, exercée l'une par rapport à l'autre, mutuellement l'une sur l'autre, de l'imagination sur la raison et de la raison sur l'imagination. Encore une fois, d'accord ? Mais retenez bien ça. Quand l'imagination est prise en compte, écoutez encore une fois, les formules qui donnent corps à un dogme pour le théologien, c'est celui qui raisonne spéculativement sur les données de la révélation. C'est une conception un peu étroite, mais c'est délibéré chez Newman. Il prend le théologien dans le sens de, dans le fond, un peu de l'intello, celui qui travaille sur des notions. C'était celle de la théologie de l'époque, hein. On a fait du chemin depuis. Mais bon, les formules qui donnent corps à un dogme pour le théologien suggèrent spontanément, un objet pour l'homme de prière. C'est-à-dire que l'homme de prière qui écoute sa conscience, l'homme de prière qui s'expose au regard du Christ, l'homme de prière qui voit toujours plus grandir en lui cette image de Christ qui le vise, quand il rencontre un dogme, il n'y voit pas un énoncé, même si c'est un énoncé, il va y voir un visage. Il va y voir le Christ immédiatement. Tandis que le théologien, comme Newman le présente ici, c'est-à-dire sous-entendu un homme qui ne prie pas assez, un théologien un peu trop rationnel, un peu trop discursif, un peu trop dans ses concepts, patati et patata, lui, il verra des énoncés. Il verra des énoncés et il va corriger les énoncés. En vertu de quoi ? Des principes de la raison, des principes de la logique. D'accord ? Bien. Vous voulez qu'on fasse une pause ? Bon. Combien de temps ? 10 minutes ? La pause est proclamée. Allez-y.